Le Vision Pro est sorti depuis environ un mois aux États-Unis, une machine inaugurant une toute nouvelle plateforme dédiée à la réalité mixte chez Apple. Les développeurs sont nombreux à s'être lancés sur le terrain, et l'App Store de VisionOS est déjà rempli de différents projets. On y trouve une multitude de petits utilitaires, quelques jeux et plusieurs apps de divertissement. Les apps iPad sont également nombreuses, cette option permettant de proposer son projet sur le casque sans avoir à l'optimiser. Le Vision Pro apporte littéralement une nouvelle dimension au développement d'applications. La démarche de création est logiquement chamboulée pour ceux qui développaient des programmes avant tout pensés pour de simples écrans 2D. Pour les équipes qui planchaient sur des apps de réalité augmentée, la nouvelle plateforme donne un nouveau sens à leur projet. Comment évolue l'écosystème VisionOS? Que pensent les développeurs de ce début de carrière? C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode de Kernel Panic. Pour discuter de tout cela, je suis en compagnie de Florent Morin, un développeur iOS très habitué des différents systèmes d'Apple. Salut Florent.
Salut Félix.
Et je suis également avec Nicolas, le développeur de l'application éducative Foxart, basée sur la réalité augmentée. Salut Nicolas.
Salut Félix.
Nicolas, on va commencer avec toi. Du coup, est-ce que tu pourrais nous présenter un peu l'application Foxart et l'entreprise qui se cache derrière? Parce que j'ai vu sur votre site que vous étiez plusieurs à monter ce projet.
Alors oui, Foxart, donc on est deux à avoir cofondé le projet, Louis et moi-même en 2018,
ouais.
Après avoir terminé notre master recherche en réalité augmentée, réalité virtuelle.
Okay.
Et on voulait un projet qui soit utile, qui ait du sens, qui a un impact positif pour la société.
Mmh.
Et on avait aussi ce côté-là, une appétence pour les sciences, sur comment fonctionne le monde, la technologie.
Ouais.
Et donc c'est pour ça qu'on a fait une application qui permet de mieux comprendre le programme scolaire pour les élèves,
mmh.
et aussi mieux comprendre le monde en général pour un maximum de personnes.
Ouais.
Et donc concrètement, ce sont des maquettes en 3D qu'on peut mettre en réalité augmentée,
ouais.
qui permet de visualiser différents sujets, donc les molécules en chimie, le système solaire, mmh. des œuvres d'art comme la Joconde par exemple,
ouais.
Des cartes de géographie ou des frises chronologiques.
Ok. Le Vision Pro, il est sorti depuis quasiment un mois. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en essayer un depuis la sortie? Florent, t'as pu le tester?
J'ai eu l'occasion de pouvoir le tester là en février,
ouais.
et c'est vrai que c'est une expérience absolument incroyable. Hein.
Ouais.
De toute façon, les lecteurs ont pu le lire dans les différents articles de MacG.
Mm.
Et c'est vrai que c'est exactement ce ressenti. On sent qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau.
Ouais. Et toi, Nicolas, ouais, vous avez pu le tester?
Alors oui, depuis qu'il est sorti, j'ai pu le tester. C'est vrai que par rapport aux autres casques que j'avais pu tester avant, le ressenti est totalement différent, surtout sur la qualité, par exemple, des écrans ou encore la navigation dans l'interface.
Ouais.
C'est un très grand changement et en tant que développeur, ça donne envie vraiment de développer pour le Vision.
Ouais. Florent, j'imagine que tu as bien suivi le développement de VisionOS. Comment ça a évolué depuis la sortie de la première version après la WWDC? La plateforme, elle est praticable ou on a encore un peu l'impression d'essuyer les plâtres?
Eh bien, en fait, la plateforme est quand même assez solide hein, pour une plateforme aussi jeune, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est sur une version 1 et même j'ai pu comparer par rapport aux autres plateformes de type Meta et compagnie. Là, on est quand même sur quelque chose de robuste. Après, on a quand même certains plâtres à essuyer dans le sens où il y a certains composants qui nécessitent de passer par UIKit, ce qui est assez surprenant, mais c'est comme ça. Donc, pour certains composants, il y a aussi certains composants qui étaient sur les autres plateformes qui fonctionnaient assez bien avec Swiftui et qui était un peu buggé sur VisionOS. Du coup, dans mes projets, j'ai pas eu le temps de vérifier si c'était des bugs temporaires ou pas, mais du coup, j'ai vu qu'on a UIKit en renfort, ça permet d'avoir cette technologie en alternative quand vraiment ça bloque.
Ouais.
Et après, c'est vrai qu'autrement, la plateforme en tant que telle, il y a cet aspect-là, il y a l'aspect débogage aussi. Déjà, le simulateur est quand même balèze, hein. Quoi qu'on en dise, on peut faire des belles choses avec le simulateur.
Ouais.
Même si c'est pas aussi bien qu'un vrai device, le vrai device, j'ai aussi pu le tester sur mon Mac pour débugger comme ça. Et là, c'est vraiment au point pour le coup et ça fonctionne qu'on ait en fait le fameux développeur strap ou pas. En fait, c'est pareil.
Ouais.
Le développeur strap va apporter plus de confort dans le sens où c'est plus rapide.
Oui.
Mais ça fait aussi un câble en plus.
Ouais.
Ce qui est un peu pénible.
Ouais, c'est sûr.
Et le fait de pouvoir débugger sans fil, c'est pas mal. Ça marche très bien en fait.
Ah ouais. Ok.
Ça marche très très bien donc.
Ok.
Voilà.
Ouais, moi, pour faire les screens pour les articles de MacG, je passais par Xcode, et donc c'est Developer Capture Pro, je sais plus exactement le nom du logiciel, mais c'est un truc qui est intégré à Xcode, et la connexion se faisait assez bien, ouais, j'étais assez surpris de...
Ouais, franchement, c'est robuste, hein, pour une version 1, c'est très robuste, je trouve.
Ouais. Nicolas, comment ça se passe le portage d'une app iOS à VisionOS? Apple vous a simplifié le boulot? Parce que vu votre projet, j'imagine que l'arrivée d'un casque AR Apple, c'est du pain béni.
Alors oui, donc on a commencé dès que le casque a été dévoilé en juin, on a commencé à travailler sur une version. Donc en fait, on est parti de zéro parce qu'on ouais. venait de Unity, donc pour la 3D et Flutter pour l'interface.
Okay.
Et en fait, on voulait repartir sur des bases propres à l'écosystème Apple. Mmh. Et même si on avait été en natif, on serait quand même reparti de zéro.
Ouais.
Parce que il y a notamment des nouvelles technologies qui ont été dévoilées en parallèle de la nouvelle plateforme Vision OS, notamment tout ce qui est Swift Data pour les données, les macros. Enfin, on voulait du code propre.
Ouais.
Et c'est aussi que c'est pas du tout les mêmes interactions par rapport à notre ancienne application, enfin qui existe toujours sur sur iPad, où là c'est de la 3D où on va naviguer sur un écran et de la 3D en vrai dans le casque.
Ouais.
Donc là aujourd'hui c'est pas, on n'a pas encore porté à 100% on va dire l'application qu'on avait sur l'iPad, mais c'est en train de se peaufiner pour les mois à venir.
Ok, d'accord. Et donc, ça vous a pris combien de temps à peu près ?
Pour avoir une version publiable, on va dire, ça a mis 6 mois environ.
Ok, ouais, d'accord.
En partant vraiment de zéro.
Ok. Et vu que c'est en air, j'imagine que juste faire un simple portage de la iPad, ça marchait pas ?
Oui, alors ça fonctionnait pas, surtout que pour utiliser Unity et Flutter, on avait déjà dû pas mal bidouiller, on va dire.
Ouais.
Et puis c'est aussi qu'on voulait vraiment quelque chose de très propre et fluide, dans le sens où Unity c'est super pour la 3D,
ouais.
mais pour tout ce qui est interface 2D, y a pas de kit dans Unity.
Okay.
Et alors que le gros avantage pour les devs sur Vision, c'est qu'il y a tout Swift UI qui est disponible. Et donc ça fait à la fois des belles choses pour l'interface en 2D, mais aussi pour la 3D.
Ok, ouais. Florent, l'intérêt pour Vision OS, il est en hausse maintenant que le casque est dispo. Tu sens un intérêt de la part des clients ? Parce qu'on a vu que certains grands noms comptaient snobber le casque dans un premier temps, faute de marché suffisant. Du coup, on imagine que ça doit pas être facile pour les plus petits développeurs avec moins de budget.
En fait, il faut voir qu'il y a deux marchés. Sur le marché des applications B2C, donc à destination du grand public, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce que t'as pas une visibilité énorme. Donc, tu tombes surtout sur des marchés de niche. Donc, moi, j'ai fait une application pour un client qui est dans le domaine de la vidéo. Donc là, ça s'y prête bien avec le Vision Pro. Et là, il a été premier. Enfin, il a été dans les premiers à aller sur l'App Store le jour J.
Ouais.
Ça allait. Et toi, il y avait un budget raisonnable. Donc, toi, j'ai dû prendre 2 mois à peu près. 2-3 mois pour faire le développement, sachant qu'il y avait toute une partie serveur et tout à gérer aussi. Donc ça va, on est sur des budgets raisonnables.
Ouais.
Après, là où il y a eu vraiment un engouement, et j'ai envie de dire, parce que j'étais à la WWDC en juin, et dès le jour, en fait, le jour, je dirais presque l'heure où le Vision Pro a été annoncé, les premiers clients sont venus vers moi parce qu'ils savaient que j'étais aussi sur les sujets de réalité augmentée, etc. Pas, mais des clients qui font ça plutôt pour des applications en interne, dans tout ce qui est domaine data-vis, donc data-visualisation, c'est-à-dire pour gérer des tableaux de bord et ce genre de choses. Là, il y a eu un vrai engouement parce que beaucoup ont testé toutes les autres solutions. Et franchement, ça a été une surprise. Je m'attendais pas à ce qu'autant de grands comptes m'appellent pour ce genre de choses, en fait.
Okay, ouais.
C'est un peu la surprise. Je m'attendais à batailler un peu plus pour... Pour trouver des clients dans ce domaine, et j'ai dû réaliser 5-6 applications depuis juin.
Ok, ouais.
Mais souvent, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai encore beaucoup de MVP pour des gens qui veulent tester le marché, qui iront peut-être sur le marché dans quelques mois ou d'ici 2-3 ans, et d'autres qui sont plutôt pour des usages internes, où là, ils sont prêts à y aller dès maintenant, parce qu'il faut, quoi.
Et tu trouves que la mise en vente du casque, ça a donné un nouvel engouement à tout ça ?
Oui, parce que ceux qui ont pu tester, c'est clair qu'en fait, c'est une fois qu'on a testé l'expérience du Vision Pro, là, on sait vraiment où on va, en fait. Il y en a quelques-uns qui commencent à circuler en France, donc forcément, ça facilite les choses.
Ouais.
Voilà, c'est plutôt pas mal, et je pense qu'il va y avoir des vagues successives où les premiers à communiquer publiquement sur leur nouvelle manière de procéder, et ainsi de suite, vont donner des idées à d'autres personnes et le marché va se créer de lui-même comme ça, jusqu'au jour où Apple sortira un appareil probablement plus raisonnable, plus accessible au grand public,
oui,
en termes de tarifs, qui va aussi contribuer à la démocratisation. Ouais. Ben finalement, aujourd'hui, on est dans une démarche assez confortable, dans le sens où le fait d'avoir un marché assez faible permet aussi d'y aller prudemment et de bien poser des bonnes bases pour le futur.
Ouais. Nicolas, est-ce que Apple est au petit soin avec les développeurs pour le lancement ? Parce que l'informatique spatiale, ça a l'air d'être leur nouveau cheval de bataille. Mmh. On pourrait dire qu'ils vont chouchouter du coup les premiers intéressés. Foxar, c'est une app éducative qui utilise la réalité augmentée, pardon, donc il y a tout pour s'attirer les faveurs d'Apple.
Alors oui, effectivement, Apple, ils étaient très réactifs, notamment on a participé à plusieurs développeur labs.
Ouais.
Et donc ça nous a permis d'accélérer le développement aussi grâce à ça. Pour le moment, on n'est pas encore trop mis en avant dans l'App Store Vision, par exemple,
ouais.
Parce que on fait encore du contenu qui est, d'éducation. Et pour le moment, le casque, il faut quand même avoir au minimum 13 ans. Donc, il n'y a pas encore forcément la cible, on va dire.
Ouais.
Mais on est en train de créer des nouveaux contenus pour tout le monde en général, sur des sujets de sensibilisation et de vulgarisation scientifique. C'est à ce moment-là que, je pense, ce sera plus approprié pour ceux qui portent le casque. Et puis, il y a aussi le côté où nous, on est aussi très axé pour le moment France. Et comme là, pour le moment, c'est disponible qu'aux États-Unis, donc c'est pas la même cible non plus sur les sujets, même sur les abonnements. C'est pas les mêmes choses.
Et du coup, il y a une traduction en anglais de l'application Foxar ?
Oui. Ouais. Donc, quand on est reparti de zéro, on a pris comme base que tous les contenus soient en anglais.
Mmh.
Et on fera la traduction en français par la suite, dès que ça sortira dans les autres pays. Enfin, d'ailleurs, pas que en français, dans toutes les autres langues.
Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a des limitations de VisionOS qui vous gonflent sur cette première version ? Moi, j'étais assez surpris en le testant de voir qu'Apple était assez généreuse avec cet appareil. Par exemple, on peut mettre autant de fenêtres qu'on veut. Est-ce que vous avez des doléances particulières pour VisionOS 2.0, Florent ?
Pas spécialement. J'ai des attentes sur certaines améliorations. Alors évidemment, j'ai envoyé quelques feedbacks, mais c'est purement d'un point de vue développement, en fait. Là, je dois avoir quelques dizaines de feedbacks côté Apple.
Ouais.
Peut-être une prise en charge un peu meilleure de tout ce qui est vidéo 3D, en tout cas pour le rendre plus accessible aux développeurs, dans le sens où j'ai travaillé un peu ce sujet avec le fameux format MVHIVC qui permet de faire de la vidéo 3D de manière assez efficace.
Ouais.
Et on sent que Apple essuie encore un peu les plâtres là-dessus. Mais bon, c'est, j'ai envie de dire, c'est dans le cycle de vie normal du système.
Ouais.
Après, j'ai pas eu spécialement de contraintes qui m'ont gêné, en fait.
Okay.
Et comme tu le dis, Apple a été vraiment généreuse là-dessus. On sent qu'il y a eu un gros travail en amont quand même. Bon, évidemment, on voudrait des avatars un peu plus jolis, mais sinon, autrement, le reste est plutôt bien fichu.
Ok, ouais. Et toi, Nicolas ?
Alors oui, je suis de même avis. C'est déjà très complet. Bon, il y a juste un point, je dirais, mais c'est pareil. C'est sur les lumières. Donc c'est vraiment du côté dev. Il y a pas encore trop de gestion des lumières, dans le sens où on peut pas mettre, par exemple, un spot ou un point de lumière qui va pouvoir éclairer les objets 3D comme on veut.
Ah ouais.
Donc
okay.
Pour nous, en tout cas, à Foxar, c'est peut-être le seul point qui est un peu gênant pour le moment, parce qu'il y a beaucoup de maquettes qui s'appuient sur ça.
Mmh.
Mais sinon, mis à part ça, on a pu faire, au niveau de toutes les maquettes qu'on a, on a pu à peu près toutes les porter. Mais après, pour les évolutions futures, je dirais qu'il y a quand même aussi le flux caméra. Alors, ça pose des soucis de confidentialité, mais il y aurait plein d'utilisations, enfin d'applications qui pourraient utiliser ce flux-là et qui pourraient vraiment donner encore plus d'idées d'applications pour le Vision.
Vous auriez un exemple d'utilisation, par exemple, chez Foxar de ce truc-là ?
Oui, on pourrait très bien juste regarder autour et puis dès que ça détecte quelque chose, n'importe, je ne sais pas si on est dehors, ça détecte un arbre. Directement interagir, des informations sur l'arbre, comment ça, donner des maquettes ensuite sur ce sujet-là. Et ça pourrait être d'autres choses que notre application. Ça pourrait être carrément un peu pouvoir interagir avec tout ce qui nous entoure. Après, peut-être que comme c'est la version 1 où on peut pas non plus trop se balader avec, c'est une utilisation quand même sur son fauteuil ou à table, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas encore ces choses-là.
Ouais, ça va peut-être arriver. Florent, toi, t'avais pu essayer le casque à la WWDC, du coup. Qu'est-ce que tu penses du produit maintenant qu'on a tous les détails? T'es convaincu par la proposition d'Apple?
Bah oui, complètement. En fait, la promesse, en fait, quand on a découvert la présentation d'Apple, donc pendant la conférence, déjà, on sentait que c'était vraiment bien ficelé, parce que lors de la conférence, il y avait tous les développeurs qui étaient là. Je me rappelle de ce moment où tout le monde dit « Ah bah tiens, il y a ça ». Et tout le monde avait une certaine attente. Et au fur et à mesure des annonces, il commençait à y avoir une sorte de silence parce qu'on se regardait. Toi, c'est un peu comme si tu faisais ta liste au Père Noël et que tu en avais deux fois plus. et tu dis « Ok, en fait, Apple est allé beaucoup plus loin que nous dans cette réflexion. » à titre personnel. Et du coup, dès le premier jour, j'ai compris ça. Et après, en effet, quand on est allé voir les développeurs au Developer Lab, qu'on a rencontré les ingénieurs qui ont conçu l'appareil, là, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai souci du détail à tous les niveaux. Et du coup, c'est plutôt top. En fait, on s'est retrouvé vraiment avec une machine où on sentait qu'Apple avait mis tous les moyens technologiques possibles pour pas se donner des limites, en fait. Et c'est vrai que on le remarque tout de suite, qu'on sent que c'est la machine de guerre, quoi.
Nicolas, est-ce qu'Apple recommande d'interagir directement avec des éléments virtuels avec ses mains? Le suivi m'a semblé assez perfectible pendant mon test avec Fruit Ninja, par exemple. Dans la Foxar, on pince du coup pour déplacer des objets, mais on n'interagit pas directement avec, il me semble.
Tout à fait. Dans Foxar... Donc, quand on déplace une maquette, on la déplace pour le moment dans sa globalité. D'ailleurs, on utilise les volumes qui sont fournis directement avec SwiftUI. On peut pas encore séparer, on va dire, pièce par pièce, les maquettes. Et ça, on va le faire dans le futur, mais uniquement quand ce sera nécessaire. Ce sera pas pour toutes les maquettes. Parce que déjà, c'est un confort d'utilisation. Pour le moment, en 3D, il n'y a pas encore trop, on va dire, de choses qui permettent de définir si telle ou telle chose est cliquable ou déplaçable. Alors que dans une interface en 2D ou connue comme des boutons, là, on sait qu'on peut appuyer dessus ou interagir avec. Et en plus, comme le tracking des yeux pour sélectionner, il est formidable. C'est beaucoup plus confortable de l'utiliser avec des interactions comme dans tout Vision OS qu'en déplaçant soi-même les pièces à la main. Après, ça peut être utile pour des maquettes où on va, par exemple, regarder des œuvres d'art, pouvoir tourner autour, ou alors une pièce mécanique, pouvoir la bouger dans tous les sens, ou encore en biologie, voir ouvrir un cœur, un organe. Donc, ce sera plus des utilisations comme ça qui nous intéressent, nous, en utilisant vraiment les mains.
D'accord, Au vu de son prix, le Vision Pro, c'est pas vraiment un produit accessible pour les petits développeurs. Florent, dans ton expérience, le simulateur, c'est une bonne alternative pour développer?
Oui, c'est une bonne alternative. Je dirais que pour l'essentiel, on peut faire ce qu'on veut, à peu près. Juste quand on commence à toucher à la 3D, du coup, plutôt le domaine de Nicolas, avec AirKit et tout ça, là, ça commence à être un peu délicat. Et après aussi, tout ce qui est représentation 3D, typiquement des vidéos en 3D, là, c'est pas possible. Parce qu'on n'a qu'un œil sur le... C'est comme si on n'avait qu'un seul œil sur le simulateur. On peut pas avoir de vision stéréoscopique. Après, j'ai envie de dire, si on commence à vraiment aller sur le sujet, il faut investir, quoi. Il y a pas de...
Nicolas, t'en penses quoi du simulateur?
Alors, c'est bien, je dirais, pour ce qui est tout ce qui est interface 2D. Mais par contre, pour la manipulation en 3D, il y a quand même, même pour débugger, il y a un confort d'utilisation, de développement en ayant directement l'appareil. Et j'ai même trouvé parfois que c'était plus rapide de porter, de mettre le logiciel sur le casque que dans le simulateur. Parfois, ça mettait plus de temps.
Ok, ouais. Et ouais, quelle sensation ça procure, du coup, de voir son app, enfin, une app qu'on a codée pour la première fois, du coup, en vrai, dans le casque ?
Le plus impressionnant, c'est surtout l'effet 3D. Mmh. Parce que sur un écran, quand on voit de la 3D, ça reste de la 2D.
Oui.
Et là, vraiment voir les objets en 3D, et vraiment comme s'ils étaient posés sur la table ou flottant en l'air, ça, pour moi, c'est plus impressionnant.
Ouais.
Et aussi même la gestion de l'environnement, où s'il y a une lumière sur la gauche, ça va vraiment éclairer sur la gauche l'objet, ça apporte un réalisme qui est époustouflant.
Ouais, ça, c'est vrai que c'est assez impressionnant, ouais. Et qu'est-ce que tu penses de l'API d'Apple, enfin des API d'Apple, pardon, et de leur écosystème pour l'AR par rapport à la concurrence ? Parce qu'on sait que certains veulent se lancer dans le domaine. Samsung, ils ont par exemple prévu un casque en partenariat avec Google et Qualcomm.
Comme je le disais précédemment, pour moi, la plus grande force des API d'Apple, c'est qu'il y a à la fois l'interface, tout ce qui est UX UI en 2D, et la 3D qui sont réunies au sein d'un même développeur kit.
Ouais.
Et qui est vraiment de qualité, comme sur les autres plateformes, sur l'iPhone, l'iPad ou le Mac.
Ouais.
Tandis que la 3D, avec d'autres moteurs, elle peut être bien, mais déjà, elle n'est pas optimisée par rapport au... Enfin, pas aussi bien optimisée par rapport au matériel que fait Apple. Et ça, c'est quelque chose qui sera quand même plus compliqué pour d'autres... Et notamment avec plusieurs entreprises qui vont devoir se mettre d'accord sur tout ça, sur le logiciel, sur le matériel, de faire quelque chose d'optimisé, dans le sens où c'est un casque qui... L'idée, c'est de le rendre le plus fin possible, le moins lourd possible,
ouais.
qui consomme le moins de batterie possible. Et là-dessus, Apple a quand même une grande longueur d'avance par rapport à d'autres qui voudraient se lancer dans la course.
Ouais.
Donc ça, c'est plus au niveau matériel. Et puis, même au niveau logiciel, quand on voit Android, où c'est très segmenté,
ouais.
Même sur tout ce qui est interface aujourd'hui, il n'y a pas juste SwiftUI. Et voilà, il y a plein de possibilités pour faire une appli Android. Et là, s'il y a des outils de migration, ils ne pourront pas faire comme une appli iPad qui peut directement être mise dans un casque.
Ouais. Et d'ailleurs, Foxar, ouais, j'ai vu qu'il y avait une version Android qui était disponible. Est-ce que ça a été compliqué de la mettre sur pied ?
Oui, ça a été assez compliqué dans le sens où la 3D et surtout la réalité augmentée, même sur des appareils qui étaient assez puissants de l'écosystème Android, ça correspondait pas à la qualité et puis surtout la fluidité qu'on voulait dans l'application.
Ouais.
Donc cette version Android-là, pour le moment, elle est toujours disponible, mais à terme, l'idée, c'est plutôt de faire une version web qui soit donc disponible partout, qui intègre de la réalité virtuelle et pourquoi pas de la réalité augmentée plus tard si les standards un jour intègrent de la réalité augmentée.
Ouais.
En fait, l'idée, oui, c'est justement de se libérer de cet écosystème d'Android, même si c'est pas vraiment un écosystème. Autant, c'est très confortable de s'enfermer dans l'écosystème d'Apple en tant que dev, mais par contre, sur Android, pour moi, c'est un peu l'inverse.
Ouais.
Et après, y a aussi, pour revenir à ce qu'on disait avant, c'est la force d'Apple, c'est aussi tous les autres produits en plus du Vision, avec les iPhones, les iPads, l'Apple Watch, l'Apple TV, les HomePod. Tout ça, on peut imaginer qu'on pourra interagir aussi avec dans un futur proche ou lointain.
Ouais.
On a eu un aperçu avec la recopie d'écran des Mac qu'on peut mettre dans le Vision et je vois ça, je vois bien ça sur d'autres appareils.
Ouais.
Que même pour tout ça, c'est très intriguant ce qu'elle va faire Apple dans le futur.
Oui.
Et ceci étant, là-dessus, j'ai eu une expérience d'interaction avec le reste de l'écosystème Apple assez intéressante.
Ouais.
C'est en fait en utilisant SharePlay, parce qu'on est habitué à SharePlay pour la vidéo, et j'ai pu l'utiliser de manière assez générique pour faire des interactions sur une interface commune entre un Mac et un Vision Pro.
Okay.
Et c'est ça qui est assez chouette. En fait, tu vas, admettons, sélectionner un élément dans un tableau de bord, depuis ton Mac, et ça va le sélectionner sur le Vision Pro.
Ok.
Et sachant que c'est chiffré de bout en bout, etc., c'est assez dingue, en fait, comme expérience.
Oui, ouais. Et Nicolas, du coup, si je comprends bien, en gros, vous avez refait l'application iOS en partant de zéro il y a quelques mois. Et donc, vous allez abandonner l'application Android derrière?
Oui, dans l'idée, c'est ça. C'est qu'on ait une application qui soit pour tout l'écosystème d'Apple.
Ouais.
Et que l'application, donc plutôt web, soit accessible partout ailleurs via un navigateur.
D'accord, parce que j'avais testé, quand j'ai fait mon test, j'étais tombé sur un site qui proposait des représentations d'objets 3D. Et donc, c'était juste via Safari où on pouvait cliquer sur un objet et l'objet apparaissait donc dans l'espace.
Alors oui, il y a cette possibilité-là. Malheureusement, aujourd'hui, elle est encore trop limitée. On ne peut pas inclure vraiment de logique derrière de code informatique qui soit assez poussé pour qu'on puisse faire nos maquettes. Dans nos maquettes, il y a des boutons, il y a des interactions, il y a des sliders.
Ouais.
Et ça, on ne peut pas encore les mettre dans ce format de fichier 3D qui est disponible dans Safari.
D'accord, ok. Florent, est-ce que la sortie du Vision Pro, ça vous donne envie de vous pencher un peu sur les plateformes de Meta ou l'AR-VR ? Est-ce que tu as observé un regain d'intérêt pour les casques, par exemple ?
Bah, en fait, alors ça m'a pas du tout donné envie d'aller chez Meta, parce que tout simplement, j'avais déjà essayé un peu quand même pour, par curiosité, mais bon, les API étaient assez compliqué et en fait ce qu'on sent vraiment c'est que Apple a donné le ton en fait on sent que maintenant ça y est, les prototypes dans le commerce c'est fini, maintenant on a des vrais produits qui fonctionnent de A à Z.
Ouais.
On a une version 1.
Okay.
Et c'est on sent bien si Microsoft qui a clairement ralenti sur la réalité augmentée. Je donne pas long feu à HoloLens pour tout le milieu professionnel, c'est pas pour rien. Et si Samsung et compagnie ont mis en pause un peu leurs projets pour pouvoir les améliorer et se mettre au niveau du Vision Pro, c'est qu'il y a vraiment en fait une norme qui a été donnée. Donc il est fort probable que dans quelques années on ait une sorte d'Android du Vision Pro.
Ouais.
Mais pour autant, de mon côté, je reste convaincu de la constance d'Apple et de la qualité de leurs API. Donc ça me va très bien comme ça et je continuerai comme ça.
Et quand tu avais essayé de développer pour les plateformes de Meta, ils avaient un simulateur ?
Oui, alors moi je vais tester directement dans mon Quest. J'ai un Quest. Et en fait, j'avais commencé bien avant et pour l'anecdote, en 2015, j'avais fait des premiers prototypes avec un iPhone qui faisait le rendu. Donc j'avais deux affichages qui représentaient l'extérieur de la caméra et je superposais des objets. En réalité augmentée, j'avais un capteur Leap Motion pour qu'on voit les mains et que je puisse interagir avec les objets 3D comme ça.
Okay.
Et pour que ça marche, j'étais obligé de le brancher sur le Mac et j'utilisais un casque Omido qui permettait de glisser l'iPhone dedans. Et pour faire tenir le capteur, le Leap Motion, j'avais utilisé de la pâte à fixe.
Ok. Dans le cas de Foxar, une déclinaison pourquoi ça pourrait être super pertinent, non ? Parce qu'en plus, c'est des produits qui sont plus accessibles que le Vision Pro actuellement.
Alors, pour le moment, c'est pas prévu, mais si effectivement il y a un public et du monde sur ces plateformes-là, peut-être qu'on développera quelque chose. Mais du coup, ce sera peut-être dans la prolongation de cette version web.
Ouais.
Où je pense que sur ces plateformes-là de Meta ou d'autres, ils ont plus quelque chose à jouer aussi sur l'ouverture de l'ARA et de l'ARV sur le web, sur des standards.
Eh bien, merci à vous deux pour toutes ces réponses. On attend maintenant de voir la première grosse mise à jour de visionOS qui devrait être présentée à la prochaine WWDC. Nicolas, bon courage pour la suite, à bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt.
Florent, merci d'être passé.
Merci bien, à bientôt.
Et nous, on se dit à la prochaine pour un futur épisode. Ciao, ciao, bye bye.